Vous écoutez France Culture.
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir, d'après les contes des Mille et Une Nuits, Ali Baba ou les 40 voleurs exterminés par une esclave, dans une adaptation radiophonique de Pierre Roland. Avec Nelly Delmas, Bernadette Lange, Pascal Mazzotti, Roger Carrel, Henri Virlogeux, Maurice Clavitte, Pierre Leproux, René Cardona, Henri Janic, Jacques Anquetil, Jacques Deschamps et Roger Coggio. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Jean Delanduc. Bruitage, Gabriel de Rivage. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.
Tiré des contes des Mille et Une Nuits, voici la véridique histoire d'Ali Baba, un des plus anciens romans policiers.
Allah est grand, il n'est d'autre Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète.
Morgiane,
je suis là, maîtresse.
Où as-tu mis les mesures?
Quelles mesures?
Tu sais, ces espèces de boîtes dont on se sert pour connaître la quantité des choses.
Elles sont devant vous, maîtresse. Les voici. Laquelle voulez-vous? La grande, la moyenne ou la petite?
La petite.
Si vous avez quelque travail de ce genre, dites-le-moi. Je vais le faire.
Non, c'est ma belle-sœur qui vient m'en emprunter une. Je crois que c'est pour mesurer du grain. Je serais bien curieuse de savoir lequel, par exemple.
Peut-être le frère de votre mari veut-il acheter de l'orge pour ses ânes?
Avec quoi l'achèterait-il? Cet Ali Baba est un pauvre hère qui a bien du mal à faire vivre sa femme et son garçon en vendant le bois qu'il rapporte de la forêt. Pendant qu'il prépare ses fagots, les ânes se nourrissent comme ils peuvent, de chardons et d'écorces. Ils n'ont jamais vu un grain d'orge.
On a bien raison de dire que le trop est frère du trop peu. Son frère, le seigneur Cassim, a eu plus de chance. Il vous a épousé, et quand vous avez hérité, il est devenu l'un des plus riches marchands de la ville. Je trouve qu'il pourrait aider son cadet, le prendre dans son commerce.
Assez sur ce sujet, Morgiane. Une simple esclave n'a pas à discuter la conduite de son maître. Tu ferais mieux, toi dont l'esprit est fertile en invention, de m'apprendre par quels moyens je pourrais savoir quelle espèce de grain ma belle-sœur mesurera tout à l'heure dans cette boîte.
Ce n'est pas très compliqué, maîtresse. Retournez la mesure et graissez le dessous avec un peu de suif. Quand votre belle-sœur s'en servira, elle posera la mesure sur le tas et des grains resteront collés. Ainsi, vous saurez ce que vous voulez savoir.
Ali Baba, vous êtes bien réservé dans vos affaires.
Que voulez-vous dire, mon frère?
Vous faites le gueux et vous manipulez l'or à pleine mesure.
Moi?
Combien possédez-vous de pièces semblables à celle-ci?
Oh, c'est une pièce d'or, en effet.
Ma femme l'a trouvée attachée sous la mesure qu'elle avait prêtée hier à la vôtre.
Ah, je ne comprends pas.
Ne faites pas l'innocent, Ali Baba. Vous avez rapporté un chargement d'or sur vos trois ânes et vous avez voulu vous rendre compte de l'importance de votre fortune.
Oh, une fortune!
C'est or. L'auriez-vous volé?
Oh, vous savez bien que j'en suis incapable.
Alors, vous l'avez trouvé Je vous garantis que si vous voulez faire le cachotier avec moi, j'irai prévenir la justice. Votre magot sera confisqué et moi, j'en recevrai une part à titre de récompense.
Ce serait une bien mauvaise action, mon frère.
Renseigner la justice n'est pas une mauvaise action.
Un bien mauvais calcul, si vous préférez, car votre part sera plus importante venant de votre frère.
À la condition que ce frère ne me dissimule rien. Si je comprends bien, vous avez mis la main sur un trésor. Allons, avouez.
Oui.
Et vous l'avez transporté ici? Non.
Ce que j'ai pu enlever est peu de choses en comparaison du tout, qui est considérable. Encore beaucoup plus que ce que vous êtes capable d'imaginer.
Où est ce trésor? Vous allez me le dire?
Mais oui. Il y a de quoi vous rendre 100 fois plus riche que vous ne l'êtes, et moi, 1000 fois moins pauvre. Et je serais heureux d'avoir contribué à votre prospérité, car je vous aime bien, mon frère.
Moi aussi, moi aussi. Allons, parlez vite.
Laissez-moi d'abord vous raconter les circonstances.
Qu'attendez-vous?
Que vous me laissiez parler.
Eh bien, parlez.
Donc, hier, je m'en fus, comme à l'accoutumée, travailler en forêt. Un endroit où je ne vais guère, attendu qu'il est assez éloigné de la ville, mais comme le bois y est de meilleure qualité, je m'étais dit...
Qu'importe!
Comment cela, qu'importe?
Qu'importe la qualité du bois, qu'importe ce que vous vous êtes dit.
Ah, bon... où en étais-je? Oui, j'avais coupé à peu près assez de bois pour faire la charge de mes ânes lorsque j'entendis un grondement assez lointain. Qu'est-ce que c'est? Mais bientôt, je compris qu'une troupe de cavaliers approchait d'un bon train. On ne parle jamais de voleurs dans le pays, pourtant j'eus la pensée que ces cavaliers pouvaient en être.
Vous traînez dans vos histoires comme vous traînez dans la vie. Des voleurs sont arrivés, et après?
Vous pensez bien que je ne suis pas resté là à les attendre. Et mes ânes, effrayés par le bruit, s'étaient dispersés à travers les fourrés. Je jugeais bon d'imiter leur prudence. Je grimpais dans un arbre touffu. Je pouvais, de là-haut, tout voir sans être vu.
Et que vîtes-vous?
D'abord, les voleurs descendre de cheval, car c'étaient bien des voleurs rentrant d'expédition avec un lourd butin. Et quand tous eurent mis pied à terre, le chef s'est approché d'un énorme rocher qui se dressait à 4 pas de mon arbre. Il a prononcé quelques mots. Et une porte s'est ouverte au milieu du rocher.
Qu'est-ce que vous me chantez? Cette porte, il a dû la pousser et faire jouer quelques mécanismes secrets.
Non, je vous assure, il n'a touché à rien. Il a dit juste 3 mots et la porte s'est ouverte toute seule.
Voilà bien des diableries. J'espère que vous n'avez pas l'intention de m'endormir avec je ne sais quel conte de magicien et de djinn.
Il n'y a pas de djinn ni de magicien, mon frère. Il y a simplement une porte qui s'ouvre par la force des mots, de certains mots.
Et ces mots, vous les avez entendus?
Oh. Aussi clairement que j'entends ce que vous dites.
Et vous me les répéterez?
Oh, je vous le promets, mais permettez que je continue.
Oui, et surtout que vous finissiez. Mmh. Une fois la porte ouverte, que s'est-il passé?
Les voleurs sont entrés et la porte s'est refermée derrière eux.
C'est tout?
Mais non, ce n'est pas tout. Ils sont restés longtemps à l'intérieur.
Et puis, ils sont ressortis?
Oui, oui. Ils sont ressortis un par un et leur chef, debout sur le seuil, les comptait. 39. Avec lui, cela fait 40 en tout. 40 voleurs qui sont montés sur 40 chevaux et ont repris à grande allure le chemin par lequel ils étaient arrivés. Moi, par précaution, je suis resté dans ma cachette encore un bon moment, malgré mon impatience.
Votre impatience?
L'impatience que j'avais d'éprouver si les mots que j'avais retenus, prononcés par moi, produiraient le même effet. Aussitôt dégringolé de mon perchoir, je me précipitais vers le rocher, je dis les mots.
Et alors?
Et alors? La porte s'est ouverte toute grande. Quelques marches à descendre, et je me suis trouvé dans une caverne très vaste, bien éclairée par les fissures naturelles de la roche. Autour de moi, des ballots de riches marchandises, des étoffes de soie, et surtout, une quantité incroyable d'or et d'argent monnayés, en tas ou dans de grandes bourses de cuir empilées les unes sur les autres. À croire qu'il n'y a pas seulement des années, mais des siècles que cette caverne sert de retraite à des voleurs.
Prodigieux!
Quand je vous aurais dit que j'ai chargé sur mes bourricots autant d'or qu'ils pouvaient emporter et que je suis rentré à la maison, je vous aurais tout dit.
Pas encore. Avez-vous oublié que vous m'avez promis de m'indiquer le chemin qui conduit à votre rocher et de m'apprendre les mots, les 3 mots?
Je vous l'ai promis et promesse et dette pour l'honnête homme. Mais souvenez-vous vous-même de bien garder ce grand secret.
Me croyez-vous assez naïf pour aller le crier sur la grande place?
Oh, assurément non, mon frère, pardonnez-moi. Je vois que vous avez hâte de vérifier sur place l'exactitude de mes dires. Mais patientez jusqu'à demain. De préférence, sortez de la ville avant que les gens ne soient levés et attendez pour y revenir que la nuit soit tombée. Quand vous serez là-bas, soyez très prudent. Je ne donnerais pas cher de votre vie si les voleurs vous surprenaient.
Je me crois aussi rusé que vous.
À coup sûr, vous l'êtes davantage. Aussi, je vous laisse aller seul et même demain, vous pouvez être certain de ne pas m'y rencontrer. Je craindrais trop de vous porter ombrage.
Alors, les mots, finissons-en.
Ils sont d'une simplicité extrême. Écoutez, il suffit de dire « Sésame, ouvre-toi » et la porte s'ouvre.
« Sésame, ouvre-toi ».
« Sésame, referme-toi » et elle se referme.
« Sésame, referme-toi ». Mais pourquoi Sésame ?
J'ai préféré n'en pas demander l'explication au chef des voleurs.
Qu'est-ce que ça veut dire, Sésame ?
Enfin, voyons, cette graine qu'on écrase pour faire de l'huile.
Ah oui, oui, Sésame, 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 Sésame. Toutes les richesses du monde sont réunies ici. Approchons ces sacs de la porte. Il ne me faudra pas très longtemps pour charger mes 10 mulets. 10 mulets. Il m'en faudrait 500 pour tout emporter. Mais je reviendrai demain. Je reviendrai tous les jours. Ali Baba a bien assez avec ce qu'il a déjà pris. C'est un très petit personnage. La brindille est tout juste la denrée qu'il lui faut. Mais l'or... Il faut que j'achète d'autres mulets. Par Allah, je construirai un palais au milieu de grands jardins. J'aurai des écuries remplies des plus beaux chevaux et de jolies esclaves qui danseront pour la joie de mes yeux. Ouf, comme ces sacs sont lourds. Mais comme ils me préparent un avenir léger. Voilà, tout est devant la porte. Il ne me reste plus qu'à lui donner l'ordre de s'ouvrir. Colza, ouvre-toi. Colza, ouvre-toi. Mais ce n'est peut-être pas colza le mot qu'il faut dire. Olive, ouvre-toi. Olive non plus. Pistache, ouvre-toi. Mais pistache, voyons. Il m'a pourtant bien dit une graine qu'on écrase pour faire de l'huile. Oh, que je suis saoul. C'est l'amande. Essayons l'amande. Amande, ouvre-toi. Toujours rien. Une graine qu'on écrase. Œillette, ouvre-toi.
Mais allons, œillette, ma jolie œillette, ouvre-toi donc.
Ricin, alors. Ricin. Vas-tu t'ouvrir ? Ricin, es-tu sourd ? Ouvre-toi ! Je l'ordonne ! Ah, mais est-ce bien de l'huile qu'il a dit ? Enfin, nous ne nous affolons pas. Œillette, colza, olive, ricin, amande, qu'est-ce qu'il y a encore ? Pavot ? Non, 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 ce n'était pas pavot. Chènevis ? Non. Non, non, quoi faire ? Allah Tout-Puissant, il n'y a de force et de puissance qu'en toi. Allah le Très-Haut, Allah le Très-Grand, toi seul as le pouvoir de me faire sortir d'ici. Allah peut tout, mais il prend bien son temps. Bah, à quoi bon s'inquiéter ? Quand elle verra que je ne rentre pas, ma femme ira prévenir Ali Baba, il viendra me délivrer. Quel beau garçon c'est Ali Baba. Tiens, je lui donnerai la charge d'un mulet. Il ne faudra pas qu'il m'en demande davantage.
Oh, quand les soucis se multiplient et s'entassent, le mieux est de se coucher dessus et de dormir. Dormons.
Frappe à ma porte.
C'est moi, Zobaïde, votre belle-sœur.
Oh, vous, à une heure aussi matinale ? Entrez. Que se passe-t-il?
Ali Baba, je suis mortellement inquiète. Hein? Vous n'ignorez pas, je pense, que Cassim, votre frère, devait aller à la forêt. Et pour quel sujet?
Oh, il ne m'avait pas affirmé qu'il irait, mais je m'en doutais. Je le sais ferme dans ses décisions et fort prompt.
Il avait pris avec lui 10 mulets portant de grands coffres pour rapporter ce que vous savez.
Ah, 10 mulets. C'est un homme méthodique.
Il est parti hier matin, avant le lever du soleil. Un jour entier, presque une nuit se sont écoulées. Il n'a pas reparu.
Oh, il aura été retardé. Ne vous alarmez pas avant de savoir.
Je suis sûre qu'il lui est arrivé malheur.
Oh, vous avez bien fait de venir. Je pars immédiatement pour la forêt avec mes ânes. Mais soyez patiente. J'attendrai la nuit prochaine pour rentrer dans la ville afin de ne rencontrer personne. Aussitôt de retour, j'irai vous voir et je vous ramènerai un époux en bonne santé avec 10 mulets convenablement lestés. Ayez confiance, petite belle-sœur. Allah peut tout.
Quelle nouvelle apportez-vous de mon mari? Je n'aperçois rien sur votre visage qui puisse me rassurer.
Oh, hélas, belle-sœur.
Mon mari n'est plus. C'est cela, n'est-ce pas?
Oh, surtout ne jetez pas de cris pour les voisins. Je comprends que ce soit pour vous un sujet d'affliction, d'autant plus vif qu'il est inattendu. Si vous voulez pleurer, que ce soit en silence. Il faut que la chose reste absolument secrète. Ne t'en va pas, Morgiane. Je sais ton dévouement et nous allons avoir besoin de toi. Écoute attentivement ce que je vais dire à ta maîtresse.
Oui, Seigneur Ali Baba.
Tôt, ce matin, comme je vous l'avais promis, Zobaïde, je suis parti. Aucune difficulté. J'espérais toujours rencontrer mon frère sur le chemin. Personne. Mon inquiétude fut à son comble quand, auprès du rocher, je vis beaucoup de sang répandu sur le sol.
Mon pauvre mari.
Retenez vos gémissements, je vous en prie, ou je n'aurai pas le courage d'aller jusqu'au bout.
Vous avez raison. Je veux être forte.
Je prononçais les mots. La porte s'ouvrit. Oh, quel spectacle!
Mon pauvre mari!
Horrible! En face de l'entrée, accroché à la paroi, 4 quartiers de chair saignante. Non content de le tuer, les voleurs l'ont dépecé et exposé là pour épouvanter ceux qui auraient la hardiesse de pénétrer dans leur antre.
Pauvre Cassim! Pauvre, pauvre!
Je suppose que le malheureux aura été surpris. Que pouvait-il contre 40 hommes armés jusqu'aux dents?
Et... qu'avez-vous fait de ces restes?
Je les ai enveloppés dans des tissus qui se trouvaient là. Ils sont à présent dans votre cour sur le dos d'un de mes ânes. Car je tiens à ce que les derniers devoirs soient rendus à mon frère. Mais vous devez comprendre que dans votre intérêt comme dans le mien, pour notre repos à tous, il est nécessaire que tout ceci reste absolument entre nous. Tu m'entends, Morgiane?
C'est Morgiane qui commande et la langue obéit.
Il s'agit d'abord de le faire enterrer comme s'il était mort, de mort naturelle.
Il n'était pas malade?
Mais il l'est. Du moins... c'est ce qu'il faut faire croire à tous dans le voisinage. Il a été pris subitement d'un mal auquel personne n'entend rien. Il ne parle plus, ne mange plus, reste couché dans l'obscurité, immobile, presque inconscient.
Et il sera bien peut-être que j'aille chez l'apothicaire acheter des remèdes.
Ah, bonne idée, Morgiane. De ces remèdes terribles qu'on ne donne qu'aux moribonds quand tout espoir est à peu près perdu. Des tablettes de Bézard, de l'essence d'Alkermès. Hein? Tenez bon 2 jours. Ne laissez entrer personne ici. Et le soir du 2e jour, vous pourrez donner libre cours à vos lamentations. Je suis persuadé que tu joueras parfaitement ton personnage, Morgiane.
Comptez sur moi. Tablette de Bézard, essence d'Alkermès, et après-demain, on pleure autant qu'on veut et le plus qu'on peut.
Mes compliments, beau frère. Vous vous y entendez pour accommoder la vérité.
Quand il n'y a pas d'autre moyen.
Vous savez très bien raconter des histoires.
Je raconte ce que j'ai vu.
Et aussi ce que vous inventez.
Ce que j'invente.
Monstre! Mais dis-le donc que c'est toi qui l'as tué.
Quoi?
La douleur vous égare, ma bonne maîtresse.
40 voleurs, une porte magique, un trésor dans une caverne, fable! Tu as rejoint Cassim dans la forêt. Et par traîtrise, tu l'as fait mourir. Mais sois tranquille. Je ne permettrai pas que tu profites de ces richesses que tu as probablement volées.
Mais pourquoi l'aurais-je fait mourir?
Tu étais furieux que nous ayons découvert ton secret.
Voleur, assassin de pareils soupçons.
Pardonnez-lui, Seigneur Ali Baba, un malheur si cruel.
J'appellerai la police. J'ameuterai la foule.
Chut.
Tu seras lapidé. Et le calife te fera couper la tête.
Ne criez pas, maîtresse, ne criez pas encore. Écoutez-moi. À quel moment votre beau-frère aurait-il pu commettre ce crime abominable?
Ce que je sais... hier, aujourd'hui, on ne peut plus rien empêcher, cela n'a pas d'importance.
Cela en a beaucoup, au contraire. Pour commencer, je puis vous affirmer que de toute la journée d'hier, il n'a pas mis les pieds dans la forêt.
Oh.
Qui te l'a dit?
Il a détaillé le grand cèdre de la place que la foudre a bâti l'an dernier.
Tu l'as vu?
Je l'ai vu, et toute la ville l'a vu comme moi. Du lever du jour au coucher, il n'a bougé de là.
Il a eu toute la nuit. Ensuite...
Impossible. Il a joué aux échecs jusqu'à une heure avancée avec son fils Mamoun. Et quand il est venu vous ouvrir, longtemps avant l'aube, vous m'avez dit vous-même qu'il sortait de son lit. Comment aurait-il trouvé le temps d'aller assassiner un homme qui se trouvait à 2 ou 3 parasanges d'ici?
Mais comment sais-tu, Morgiane, que je joue aux échecs avec Mamoun?
C'est lui qui me l'a dit.
Tu le connais donc?
Je le rencontre quelquefois, hein? Et encore ce matin.
Morgiane, je te défends de soutenir mon ennemi.
Il n'est pas votre ennemi, maîtresse. Oh, croyez-moi, je suis très jeune encore, mais je sais ce que valent les hommes. Mon instinct ne m'a jamais trompée. Beaucoup semblent d'albâtre et le dedans n'est que suie. Moi, je vois la suie sous l'albâtre.
Laisse-moi le démasquer.
Puisqu'il n'y a pas de masque.
C'est aujourd'hui qu'il a tué mon mari. Ali Baba.
Oui.
Qu'avez-vous fait depuis le moment où nous nous sommes quittés ce matin?
Mais j'ai fait ce que je vous ai dit, rien de plus.
Allons, réfléchissez, maîtresse. Votre mari avait assuré qu'il rentrerait le soir même. S'il n'est pas rentré, c'est qu'il était déjà mort. Autrement, croyez-vous qu'il serait resté à la Belle Étoile? Et pourquoi? Sans doute pour attendre pendant toute une nuit et la moitié d'un jour que son frère se décide à venir le tuer. Avouez que cela est beaucoup moins croyable que l'existence de la caverne, de la porte magique et des 40 voleurs. Ah, ces 40 voleurs. Pour nous, il vaudrait 1000 fois mieux qu'ils n'eussent jamais existé. Puissions-nous être dispensés de faire un jour leur connaissance?
Je suis bien malheureuse.
Votre plaie est profonde. Il ne faut pas l'envenimer. Suivez les conseils de prudence et de modération que vous a donné votre beau-frère.
Restez toute seule devant tout cet inconnu. Se torturer pendant des heures, avec des questions sans réponse. Piétiner dans les ténèbres.
Vous n'êtes pas toute seule.
Les preuves que vous a données Morgiane ne peuvent-elles suffire à vous convaincre? Ce n'est pas le meurtrier de votre mari qui vous parle, mais un ami sûr qui, pour vous aider et vous consoler, est prêt à entreprendre tout ce qui sera en son pouvoir.
J'ai tant besoin de protection. Oui, mon beau-frère. Je sais que Morgiane est une fille avisée et qu'elle ne saurait abuser de ma confiance. Je connais sa loyauté. Et plus je repasse ses arguments dans mon esprit, plus j'en reconnais la force. Mais vous, à présent, vous devez me détester pour toutes les vilaines choses que je vous ai dites.
Elles sont déjà oubliées, petite belle-sœur. Il ne faut plus songer qu'à la réalisation de nos plans. Et d'abord entrer ici, le corps écartelé de notre infortuné Cassim.
Oh, écartelé, c'est vrai? La voilà bien la meilleure preuve de votre innocence.
Comment cela?
Et coupe-t-on en 4 un cadavre alors qu'on médite de faire croire à tous que la mort fut naturelle? Ah, nous ne sommes pas au bout de nos peines, bonnes gens. Et lorsque ceux de la mosquée viendront pour laver le corps et le mettre en bière, je ne vois pas très bien ce que nous leur dirons pour expliquer cette maladie extraordinaire qui met un homme en morceaux.
Ah oui, Morgiane, il faudrait...
Ah, il faudra. Toutes sortes d'événements à la maison.
C'est ivresse qu'on m'a raconté que le gros Cassim, ton maître, était mort.
Oh, un si bon maître. Une maladie qu'il a emportée en 2 jours.
Ah, c'est la destinée, ça, ma pauvre fille. La destinée, c'est comme l'ombre. Chacun traîne la sienne partout après soi.
Oh, et vous pouvez croire qu'on l'a bien soigné. Tablette de Betsar, essence d'alkermès et tout.
Un malade qui ne veut pas guérir avec ses drogues-là, c'est qu'il est bien décidé à mourir.
Est-ce qu'on a pu pleurer?
Et son frère, le bon Ali Baba, je ne vois plus passer avec ses ânes.
Après la mort du seigneur Cassim, il est venu habiter avec nous. Sa femme et son fils aussi.
Avec vous? C'est-y donc qui va épouser sa belle-sœur?
Ben pourquoi pas? Il peut bien avoir 2 femmes puisque la religion le permet.
Ah, tout de même, un homme qui était si pauvre.
Il faut croire qu'il avait un petit bien dont il ne parlait pas. Ajouter à la fortune de la veuve, ça doit faire pas mal.
Ah, alors te voilà devenu l'esclave d'Ali Baba. Ah, Ali Baba, avoir des esclaves, il faut avoir vécu comme moi sous 4 générations d'Abbasides pour voir un Ali Baba devenir riche. Et la boutique de Cassim, qu'est-ce qu'ils vont en faire?
C'est le fils du seigneur Ali Baba qui la reprend.
Le petit Mamoun! lâcher un marchand de la ville haute.
C'est un jeune homme à présent. Et son patron a toujours témoigné de sa bonne conduite.
Un joli garçon, en tout cas, bien fait de partout, d'humeur enjouée, d'esprit vif. Son père va lui trouver une fille riche.
Sans doute, oui.
Ton cœur soupire comme un oiseau qui voudrait s'envoler.
Oh, il n'y a pas de danger, il est bien accroché. Ah, mais dites-moi, grand-mère, vous connaissez cet homme qui fait le tour de la place en parlant aux uns et aux autres?
Un étranger. Il pose des questions à tout le monde.
Tiens, qu'est-ce qu'il veut donc savoir?
Les morts, surtout, ont l'air de l'intéresser.
Les morts?
Oui. S'il n'y avait beaucoup ces temps-ci, si c'était des hommes ou des femmes, quel âge ils avaient, de quoi ils sont morts. Il a essayé de me faire parler, mais pour tirer les vers du nez à la vieille Donia, il faudrait qu'il soit né avant son grand-père.
Une mauvaise figure. Une barbe qui ne va pas avec le reste. Sa robe est blanche, mais au travers de cet albâtre, je vois la suie.
Qu'Allah te garde sous sa protection, ma belle enfant.
Je veux bien faire la même prière en votre faveur, Seigneur étranger, mais je doute que le Tout-Puissant consente à m'exaucer.
Toi qui as la langue si alerte, raconte-moi donc un peu ce qui se passe dans cette ville.
C'est pas la vôtre. Je me demande en quoi nos affaires peuvent vous intéresser.
Je voyage pour m'instruire.
Et regardez les pierres, les arbres, les maisons, le ciel, si ça vous fait plaisir. Mais n'essayez pas de déchiffrer l'intérieur des habitants. Vous n'y trouverez jamais rien de bon pour vous.
Il n'est pas interdit d'observer leurs mœurs, de chercher à savoir comment ils vivent.
Et comment ils meurent, peut-être.
Et comment ils meurent aussi. Mais, puisque tu parles de mourir, n'as-tu pas entendu dire ces temps-ci qu'un homme était mort de façon étrange?
Un homme?
Oui.
Plutôt 100, plutôt 1000 et autant de femmes. La mort est toujours étrange. On respire, on meurt, on aime, et puis tout d'un coup, plus rien. N'est-ce pas chaque fois une chose bien étrange que la mort?
Mais personne n'est mort récemment parmi tes voisins, tes parents, tes amis.
Et parmi les vôtres?
Oh, moi, je change tous les jours de pays, je n'ai pas de voisins. Et mes parents sont restés bien loin d'ici.
Mais vos amis?
Mes amis?
Vos 39 amis.
Notre capitaine, je vous ai fait un rapport fidèle de ce qui s'est passé. La fille s'est sauvée en riant jusqu'au fond de son gosier.
Et toi, tu es resté planté là, comme un bout de bois à un billet.
Mais il y avait de quoi? Quelqu'un que je ne connais pas et qui se met à me parler de mes 39 amis.
Un gaillard de ta trempe ne se laisse pas moquer par un souillon de cuisine.
Oh, elle était fort jolie, notre capitaine.
Jolie ou pas jolie, cette folle tient des propos qui m'inquiètent.
Mais elle n'est pas folle du tout, le capitaine. Et même...
Pas folle, peut-être. Et c'est bien plus grave. Nous sommes découverts et perdus si nous n'y prenons garde. Nous étions si bien dans ce pays tranquille, loin de notre théâtre d'opération. Les habitants de la ville nous ignoraient. Ils devaient croire que la race des voleurs avait complètement disparu de la surface de la terre. Et voilà qu'un jour, nous trouvons un homme qui, une fois entré dans cette caverne, ne sait plus comment en sortir. Nous le tuons, c'était juste. Mais nous le tuons trop vite, sans lui demander son adresse. Faute grave! Nous aurions dû le couper en quatre pour commencer et ne le laisser mourir qu'ensuite. Enfin! J'ai espéré d'abord qu'il était seul à posséder notre secret. Erreur! Un autre vient à son tour et emporte le corps du premier pendant que nous ne sommes pas là. Oh, ouvrons l'œil! Si cela continue, nous aurons bientôt autant de visiteurs que la grande mosquée de Bagdad le jour de Bayram. Aujourd'hui, j'envoie ce grand inutile au renseignement.
Chef,
il se pavane dans le marché de la ville, Demande à tous les gens qu'ils rencontrent s'ils n'ont pas vu quatre morceaux d'hommes qui se promenaient sur la grande place en plein midi et finit par se faire jobarder par une petite guenon ridicule.
La plus jolie fille que j'ai jamais regardée, notre capitaine.
Tais-toi, tais-toi. Les sots comme toi ne savent pas retenir leur salive.
Ah bon, mais je m'y suis mal pris, d'accord. J'aurais dû vous la porter ici, cette fille. Vous l'auriez fait parler, mais... Mais vous m'aviez tellement recommandé de ne rien tenter qui pût nous découvrir que j'ai pas osé enlever la fille devant tout le monde qui était là.
Et il fallait la suivre de loin. Remarquez la maison où elle entrait. Mais... Quand on connaît le gîte, le lièvre est bientôt pris.
J'ai bien essayé de la suivre, notre capitaine. Mais elle s'est perdue dans un dédale de petites rues tortueuses. Je veux bien retourner là-bas si vous m'en donnez l'ordre.
Non! Chien forcé ne vaut plus rien pour la chasse. Un autre ira. Quant à toi...
Oh non, 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 non.
Déjà debout, Savetier ?
La boutique du père Mustapha est toujours la première ouverte sur la place.
Mais le mouton blanc n'a pas encore chassé le mouton noir au fond de l'Occident. Comment faites-vous pour y voir clair ?
Allez, quand on a bonne vue...
Et âgé comme vous l'êtes ?
La carcasse ne vaut plus rien, mais l'œil est toujours jeune.
Et vous pouvez coudre vos babouches ?
Je pourrais vous recoudre la peau si elle était en petits morceaux.
Mais recoudre la peau des gens n'est pas travail de Savetier.
C'est travail d'homme qui sait coudre et qui a de bons yeux.
Vous ne me ferez pas croire que cela vous est arrivé.
Vous croyez ou ne croyez pas.
Bon, on sait bien que les vieux ont toujours quelques bonnes histoires à raconter. Et moi, j'aime bien les histoires.
Mais je ne veux rien vous dire.
Vous avez recousu un homme ? Oui, je veux bien le croire, après tout. Il y a longtemps ?
Non, pas très.
Et cela a dû être effrayant, un homme qui crie, qui se débat.
Oh non.
Il s'est laissé recoudre ?
Sans rien dire.
Alors c'est qu'il était mort.
Aussi mort que n'importe quel mortel peut le devenir par la volonté d'Allah.
Non, vous voulez plaisanter, bonhomme. D'abord, pourquoi coudre un mort ? Hein ? Vous voulez dire que vous avez cousu son linceul ?
J'ai bel et bien tiré l'aiguille dans la viande d'un homme mort qui était en quatre morceaux.
Quatre morceaux ? Vous en êtes bien sûr ? Et cet homme, vous le connaissez ?
Vous voulez me faire parler ? Vous n'en saurez pas davantage.
Oh, si c'est un secret que vous avez promis de garder, je n'insisterai pas.
Vous perdriez votre temps.
Oh, remarquez, comme je suis étranger à votre ville, et que je n'y connais personne, vous n'auriez aucune indiscrétion à craindre.
C'est bien ce que je me disais.
Et supposons que je vous donne ceci.
Quoi donc ? Une pièce d'or ?
Cette fois, j'en suis sûr, vous avez de bons yeux.
Je me demande pourquoi vous tenez tant à ce que je vous raconte cette histoire.
Avouez que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour me mettre en appétit. Dites seulement qui était cet homme que vous avez recousu.
Vous ne le direz à personne ?
À personne.
Eh bien, c'est un homme que je ne connais pas.
Voyez-vous ce vieux madré ?
Mais c'est la vérité.
Vous avez déjà trop parlé, grand-père. Il faut vider votre sac.
Il ne reste plus grand-chose au fond.
Je finirai par croire que vous avez été complice d'un mauvais coup.
Pensez cela du père Mustapha. Vous en savez presque autant que moi. Autant vous dire comment les choses se sont passées. Il y a quelque temps de cela, un matin comme ce matin, je venais d'ouvrir. Je vois entrer une jeune esclave et elle me donne le bonjour... et me met une pièce d'or dans la main.
Je commence à comprendre pourquoi vous vous levez si tôt.
Père Mustapha, me dit-elle, prenez tout ce qui vous est nécessaire pour coudre et venez avec moi promptement. Oh, pas si vite que je réponds. Mustapha ne fait jamais rien contre sa conscience et contre son honneur. Je veux bien aller avec vous, mais seulement à cette condition. Ou bien, je préfère vous rendre la pièce.
Bien répondu.
L'esclave me glisse une autre pièce d'or.
Ah, cela donne à réfléchir.
C'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé à cette conclusion qu'il est deux fois plus difficile de refuser deux pièces d'or qu'une seule.
Et si j'imitais l'esclave ?
En quoi faisant ?
En vous glissant une deuxième pièce d'or.
Vous me forceriez à réfléchir encore et ces besognes bien fatigantes pour une vieille tête comme la mienne.
Puisque la conclusion est trouvée, pourquoi ne pas la faire resservir ?
Je ne vous ai pas encore dit que mon travail terminé et j'en reçus une troisième.
Je me sens tout disposé à accomplir le même geste quand nous serons au terme de la promenade que je me propose de faire en votre compagnie. car vous allez me montrer l'endroit où l'esclave vous a conduit.
Oh, je le voudrais que je ne le pourrais pas.
Allons, 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 grand-père. Cette affaire-ci est bien plus avantageuse que la première, puisque vous n'allez avoir que vos jambes à faire travailler.
Encore faudrait-il que je sache les faire travailler dans la bonne direction. En sortant d'ici, l'esclave m'a bandé les yeux et je me suis laissé conduire par la main comme un aveugle. C'est seulement dans la chambre où se trouvait le cadavre qu'elle m'a rendu la vue. Avant que je reparte, elle a pris la même précaution et le retour s'est effectué exactement comme l'aller.
On peut tout de même essayer.
Essayer quoi?
Et comme toute peine mérite récompense, voici la deuxième pièce d'or. Allez, mettez-la dans votre bourse. Mais si, mais si, mais si. Et maintenant, venez à la porte. Je vais vous bander les yeux, moi aussi.
Où voulez-vous m'emmener?
Et c'est vous qui me mènerez, au contraire. Vous parviendrez peut-être à retrouver dans votre mémoire le chemin que vous avez suivi.
Ah, je ne voudrais pas vous déplaire, généreux étranger, mais je ne vous promets rien.
Je vous bande les yeux. Donnez-moi la main. Et nous voilà partis. Exactement, notre capitaine, l'endroit où le bonhomme s'est arrêté.
Cette maison serait celle de l'homme décousu et recousu?
Oui, celle-ci et pas une autre.
Comment le sais-tu? Toutes les maisons de cette rue sont semblables.
Pas si bête, notre capitaine. Avant d'ôter le bandeau du vieux Mustapha, j'ai fait sur la porte une marque avec un morceau de craie que j'avais ramassé en chemin. T'as y regardé?
Oui, en effet, elle est assez visible. Tu as pensé à tout. Tu as montré beaucoup d'habileté. Je proposerai à nos camarades de t'attribuer une part supplémentaire lors de notre prochain partage. Mais ne restons pas ici, nous finirions par nous rendre suspects. Poursuivons notre chemin.
Oui, notre capitaine.
Je vais rassembler toute la bande et nous entrerons cette nuit par surprise. Tiens!
Quoi?
Sur cette porte, la marque, à la craie.
Oh, ça là!
La même que celle que tu m'as montrée là-bas.
La même?
Viens, continuons.
Ah ben ça, par exemple.
Et ici?
Encore?
Sur la porte en face, sur sa voisine.
Ah ben ça, je n'y comprends rien.
Parmi toutes ces portes qui se ressemblent et sont toutes marquées de la même façon, laquelle est la bonne? Es-tu capable de le dire?
Je crois que c'est celle que nous venons de dépasser.
Ou celle qui suit?
Et ou celle qui suit. Oui, 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 c'est celle qui suit, c'est celle qui suit, oui, oui.
Est-ce que tu te moques de moi?
Non, notre capitaine.
Tu avais bu ce matin un peu trop de fika, n'est-ce pas?
Mais je vous assure, notre capitaine, que je n'ai fait qu'une marque. Il faut que quelqu'un soit passé derrière moi.
Il faut surtout que tu sois bien stupide pour tracer au beau milieu d'une porte une marque aussi voyante.
Oui, oui, c'est ça, je suis complètement stupide. Oh, là! Et là! Ils en ont mis partout! Il y a de quoi perdre la tête.
Il y a de quoi... Oui. Allons, viens!
Crever là-dedans. Ah, tiens, vieux Hassan, tu as la même idée que moi? Tu passes le nez aussi pour respirer un brin?
Ça va, Ganim.
Oh, plutôt mal. Oh, j'ai les reins en compote et les articulations complètement rouillées. Avec ça, cette chiette de poignée de sable qui m'entre dans l'estomac.
De quoi avons-nous l'air tous deux accrochés de chaque côté de ce mulet?
Ouais. Ha!
Des gens de cheval qui voyagent à croupe-temps dans des pots à huile. Quelle misère.
Heureusement que notre capitaine marche en avant. Si jamais il se retourne, il va sûrement nous faire rentrer la tête dans nos pots.
Nous ne sommes pas les seuls. Si les autres mulets font comme nous.
Tu crois que c'est encore loin, la ville?
Je sais pas. Je suis jamais allé.
Ah, c'est un vrai Cyrus, notre capitaine, hein? T'as vu? Les autres, ils sont jamais arrivés à trouver la fameuse maison. Et lui, du premier coup, il réussit. Tout de même, il y a une chose que je comprends pas très bien.
T'as la tête pleine d'eau.
Ben pourquoi qu'il nous a fourrés tous dans des pots à huile pour aller à la ville?
Il nous l'a expliqué.
Ben j'ai rien compris du tout.
Tu devrais agrandir ton turban, ça t'élargirait les idées.
Faudra que j'essaie.
Pour pas que les gens se méfient. Notre capitaine s'est déguisé en marchand. Un marchand comme il y en a qui vont dans les villes pour vendre de l'huile. Il conduit 19 mulets bâtés qui marchent à la queue leu-leu. Accrochés à chaque bât, deux grosses jarres et dans les jarres, 37 empotés. Nous. La 38e jarre contient vraiment de l'huile. Comme ça, si on lui demande d'avoir la qualité, tu comprends?
Mais quand on sera sur le marché, les gens s'apercevront bien qu'on n'est pas de l'huile.
Tu as la caboche plus dure que nos peaux. Le marché a lieu demain. Mmh. Et d'ici demain, il y a une nuit à passer. Il fera presque nuit quand nous entrerons en ville. Alors, notre capitaine ira demander asile au maître de la fameuse maison, comme tu dis.
Mais pourquoi?
Je suis sûr que le mulet qui nous porte a compris. Quand tout le monde dormira dans la fameuse maison, abruti sans malice, nous serons les maîtres. Nous châtirons comme il se doit ce voleur de voleurs qui en veut à nos richesses. Naturellement, nous lui ferons avouer d'abord où il a caché ce qu'il a déjà pris. Ensuite, pour l'agrément, pareil qu'il y a deux épouses encore pas mal et une petite esclave qui est belle comme tout.
Planquez-vous, on approche. Planquez-vous, on approche, c'est passé. Planquez-vous, on approche, c'est passé. Planquez-vous, on approche.
Borgiane, je te recommande de prendre grand soin de notre hôte.
Il a bien soupé et il est parti dormir. Que lui faut-il de plus?
Lui as-tu préparé des rafraîchissements pour la nuit?
Oui, Seigneur Ali Baba. Ah. Mais je vous trouve peu sage d'accueillir chez vous un traîneur de route que vous ne connaissez pas.
Oh, un honnête marchand d'huile qui n'avait pas trouvé de place à l'auberge.
Quand on a des intentions pures, on dort tranquillement en plein champ.
Vous ne pouvez pas le laisser coucher dehors.
Oh, en plus, c'est plutôt votre maison de vrais cailloux que de faux bonshommes.
Oh, tu es trop méfiante.
J'ai peut-être quelques raisons de l'être.
Oh, lesquelles?
Je vous le dirai quand il sera temps. Pour le moment, j'ouvre l'œil. Seigneur Ali Baba, vous êtes trop bon. Oh. Ceux qui sont doux comme le sucre se font manger.
Et ceux qui sont amers comme la coloquinte, on les rejette.
Bon, le chamelier a ses idées, le chameau a les siennes. Moi, je vous dis que cet homme a des allures louches. Tout à l'heure, je l'observais, il était dans la cour, près des jarres d'huile qu'il a déchargées de ses mulets, et savez-vous ce qu'il faisait?
Ben, comment le saurais-je?
Il leur parlait. Est-ce qu'on parle à des jarres d'huile? J'étais trop loin pour entendre ce qu'il disait, mais je suis bien sûr qu'il parlait.
Oh, ben sans doute demandait-il au Tout-Puissant de l'aider dans le succès de sa vente de demain. L'homme dépend de l'homme et tout dépend d'Allah, tu le sais bien.
Qu'il nous protège, mon bon maître.
Écoute, Morgiane, je t'avertis que je vais au bain et demain avant le jour. Hein? Alors prépare mon linge et donne-le à Abdallah qui doit m'accompagner.
Si vous allez au bain, je vais mettre sur le feu un bon bouillon que vous prendrez en rentrant pour vous rétablir le corps.
L'idée est excellente, Morgiane. Mais ne t'attarde pas trop ce soir. Tu dois avoir besoin de sommeil, toi aussi. Qu'Allah te donne de beaux rêves.
Sommeil et moitié sommeil et moitié mort.
Comment se fait-il, Morgiane? Toutes les jarres d'huile sont encore alignées le long du mur. Le marchand ne les a donc pas chargées sur ses mulets pour aller les vendre?
Mon bon maître, Allah vous conserve, vous et toute votre maison. De la belle huile, vous pouvez le dire.
Ah.
Venez voir.
Oh, quelle horrible odeur!
Et le nez d'abord et l'œil ensuite.
Hein?
Première jarre, voulez-vous regarder ce qu'il y a dedans?
Oh, Morgiane! Un homme.
Ne craignez rien, il ne peut plus vous faire de mal.
Mort?
Fricassé.
Et dans l'autre? Et dans l'autre?
Et comme ça jusqu'au bout de la rangée, sauf dans la dernière où il y a vraiment de l'huile.
Non mais explique-moi, le marchand d'huile, qu'est-il devenu?
Votre marchand d'huile est aussi peu marchand d'huile que je suis marchande de gomme arabique.
Hein?
Ben, ne restez pas à l'air, vous connaîtrez toute l'histoire plus commodément dans votre chambre. Il est temps, pour le bien de votre santé, que vous preniez le bouillon pendant qu'il est chaud. Est-il comme vous l'aimez? Assez salé, bien épicé?
Il est parfait, mais je t'en prie, raconte.
Hier soir, Seigneur Ali Baba, il y avait peu de temps que vous vous étiez retiré, quand subitement ma lampe s'éteint. Ah. Plus une goutte d'huile dedans, pas davantage dans ma cruche et pas un bout de chandelle nulle part. Et il fallait encore que j'écume votre pot-au-feu. Ah. Comment faire ? Abdallah arrive pour chercher votre linge, il me dit « Te voilà bien embarrassé, de l'huile, il y en a plein la cour. » C'était vrai. Je prends ma cruche et je cours à la jarre la plus proche. J'y étais à peine arrivée, j'entends une voix d'homme qui demande « Est-ce le moment, notre capitaine ?» Une voix qui sortait de la jarre.
Une voix d'homme qui sort d'un vase que l'on croit plein d'huile. Mais il y a de quoi avoir peur, tu n'as pas crié.
Je n'ai pas eu peur et je n'ai pas crié non plus. Les voisins n'ont pas besoin de connaître nos secrets.
Mais qu'est-ce que tu as fait ?
Eh bien, en faisant ma grosse voix, j'ai répondu « Pas encore, mais bientôt. Ah. » Ensuite, comme je passais devant les autres, d'autres voix se sont élevées. « On sort, notre capitaine ?» Je commence à avoir des crampes. Il y en avait un qui répétait tout le temps « Cette chienne de poignée de sable qui me rentre dans l'estomac. »
Et à chacun, tu répondais ?
Mais il fallait bien. C'est seulement dans la dernière jarre que j'ai trouvé de l'huile et que j'ai pu faire ma provision. Et alors, il m'est venu une idée. Si j'emplissais ma plus grande bassine d'huile et que je la fasse bouillir, il suffirait ensuite d'en verser sur ces méchants hommes pour qu'ils n'aient plus de méchants desseins.
Abdallah t'a aidé ?
Il était parti dormir et j'aimais autant. Quand je tiens une bonne recette, je la garde pour moi.
Et un à un, tu as ébouillanté tous ces hommes ?
37 en tout.
Mais ils ne se sont pas débattus, ils n'ont pas crié.
Ils étaient bien trop à l'étroit pour gigoter. Ils sont morts l'un après l'autre gentiment, sans faire beaucoup plus de bruit que les petits poissons de l'Euphrate quand ils expirent dans la friture.
Oh, c'est une histoire épouvantable et merveilleuse. Mais le faux marchand...
Je me demandais ce qu'il allait faire. J'ai éteint ma lampe et je me suis mise à la fenêtre pour surveiller la cour. Ah. Bientôt, je l'ai vu paraître avec ses armes qui brillaient sous la lune. Il venait chercher ses hommes. Mais quand il les a trouvés tout noirs et fumants au milieu de leur sauce, il a été pris d'une telle frayeur qu'il s'est enfui par la porte du jardin sans demander son reste.
Oh, tu nous as sauvé la vie à tous, Morgiane.
Non, je n'ai pas tant de mérite. Depuis quelque temps, le danger rôdait autour de la maison. Il y avait des signes. Les oreilles me sonnaient. Et 3 jours de suite, à midi, les coqs avaient chanté. Je savais que nous n'allions pas tarder à faire la connaissance des voleurs de la forêt.
Pourquoi ne m'as-tu jamais fait part de tes craintes ?
Je pouvais me tromper. Mais maintenant, il n'y a plus de doute. Il faut vous tenir sur vos gardes. 37 ôtés de 40, reste 3. Tant qu'il en restera un, nous ne pourrons chanter victoire.
Oh, Morgiane, je ne mourrai pas que je ne t'ai récompensé comme tu le mérites. Pour commencer, je déclare devant Allah que je te donne ta liberté. Dès aujourd'hui, tu n'es plus une esclave.
Mais me permettrez-vous au moins de rester dans votre maison ?
Oh, aussi longtemps que tu le voudras. Pas très longtemps, sans doute. Car je prévois qu'avant un peu, un mari viendra t'enlever à moi.
Oh, mais ça, je ne suis pas pressée.
C'est moi qui te le trouverai.
Mahmoud, mon fils, êtes-vous satisfait de vos affaires ?
Oh, très satisfait, Seigneur Ali Baba. J'ai vendu hier pour 1000 dirhams d'or de turquoise du Khorasan et une grande pièce de velours de Tous.
Ah, ben vous voilà sur le chemin de la fortune. Mais dans une bonne maison, il faut une bonne épouse.
N'en parlons pas encore, mon père.
Monsieur, monsieur, je vais m'occuper de vous marier dignement.
Si j'osais vous confier, mon père...
Eh bien, osez.
Non. Non, non, ce n'est qu'un rêve tout à fait ridicule.
Oh, long.
Oh, mon père, j'ai oublié de vous dire. J'ai un nouveau voisin, un marchand qui a pris à louage la boutique vis-à-vis de la mienne. C'est un bon musulman qui fait chaque jour ses 5 ablutions et ses 5 prières. Ne rit jamais sans motif et jamais ne bâille sans cacher sa bouche derrière sa main gauche.
Eh ben, cela prouve une éducation raffinée. Lui avez-vous parlé ?
Le lendemain de son installation, il est venu chez moi pour me faire civilité et me remettre de beaux présents. Depuis, il m'a prié... à sa table à plusieurs reprises.
La fréquentation d'un homme d'expérience ne peut vous être que profitable. Vous apprendrez auprès de lui à mieux connaître les usages du monde.
Hélas, mon père, je ne voudrais pas être en reste. Vous le savez, je suis logé trop petitement pour recevoir et je voudrais bien lui rendre ses invitations.
Invitez-le ici, vendredi par exemple, qui est le jour où les marchands tiennent leur boutique fermée. Morgiane préparera quelques-uns de ses ragoûts et je lui ferai déguster quelques flacons de mon casbine et de mon vieux kiraz. Comment s'appelle-t-il votre nouvel ami ?
Khodja Hussein.
Seigneur Khodja Hussein, que pensez-vous de mon petit kiraz ?
Dites que c'est un grand kiraz. J'ai beaucoup voyagé et je puis vous affirmer, Seigneur Ali Baba, qu'il surpasse en bonté les vins les plus exquis du monde.
Il en acquiert une plus grande encore par l'approbation que vous lui donnez.
Vous m'avez traité comme un grand seigneur.
Ce modeste repas était bien au-dessous de ce que vous méritez, et je vous ai tant d'obligation pour l'amitié dont vous voulez bien honorer mon fils.
Ce jeune Mamoun est un garçon de grand esprit. Lestons parmi les pierres du chemin
un diamant dans sa gangue.
Regardez-le, il est rouge de confusion.
Mais il n'a pas à rougir, je ne dis que la vérité.
Pour terminer cette soirée, permettez-moi de vous soumettre certains petits divertissements que nous nous offrons parfois le soir après souper.
Oh, ne vous mettez plus en frais pour moi, je vous en prie.
Ce n'est rien, je vous assure. Entre, Morgiane.
Une danseuse? Ah,
je vous présente Morgiane. Ce n'est pas une esclave ordinaire. Du reste, ce n'est plus une esclave. Je lui ai donné la liberté pour la récompenser des immenses services qu'elle m'a rendus. Elle va chanter et danser pour vous. À toi, Morgiane. Montre-nous ce que tu sais faire.
Quelle souplesse, quelle légèreté. Votre Morgiane serait digne de paraître devant le commandeur des croyants.
La danse du poignard.
Celle-ci est en votre honneur. C'est la première fois qu'elle l'exécute.
Voici une douce créature qui sait joliment tenir un kranjar.
Oui, voyez comme elle tient son arme. Ne croirait-on pas qu'elle va se transpercer le sein?
Ce serait dommage.
Ah, et maintenant, la voilà aux prises avec des ennemis imaginaires. Ses attaques, ses esquives...
Cette ratine-là vous clouerait un homme sur un air de danse.
Oh, mais savez-vous bien, Seigneur, qu'elle en serait capable?
Et voici la fin de la danse.
Ah, oh, la danse est finie. Pour moi.
Abdallah, aide-moi à le mettre sur le sofa.
Oh, malheureuse, qu'as-tu fait?
Ce qu'il se préparait à vous faire si je l'avais laissé vivre. Regardez.
Laisse-moi.
Voyez ce poignard qu'il cachait sous sa robe, c'était pour vous.
Mais pourquoi?
Cet homme est votre plus fier ennemi, vous ne reconnaissez donc pas?
Oh, le marchand d'huile.
Le capitaine des voleurs?
Oui, c'est moi. Ah, puisque je vais mourir, je n'ai plus rien à vous cacher. J'étais venu pour tuer ce juste... C'est vrai, mais le coup est manqué. La guerre est finie entre nous. Avant de partir, je voudrais savoir... Oh, ce poignard comme un feu installé dans ma chair. Non, ne l'enlevez pas. Je serai mort tout de suite. Avant, je veux savoir...
Que veux-tu savoir?
Qui... Lequel d'entre vous a ébouillanté mes hommes?
Faut-il lui dire, Morgiane?
C'est moi.
Oui, c'est bien une idée de femme. L'esclave du marché, c'était toi. La main qui brouilla les marques, c'était la tienne.
Moi et ma propre main. Oh,
mes braves compagnons, tous morts. Jamais vaincu par les hommes. Une jeune fille a suffi.
Tous morts? Non, je sais compter, voleur. Il en reste encore deux et tu vas me dire où ils sont.
Morts aussi. Par Allah. Les deux balourds que tu avais bernés, je leur ai fait sauter la tête avec mon sabre. Des têtes sans présence d'esprit doivent être coupées. Ce n'est pas le cas de la tienne. Tu es une fille de grand courage, Morgiane. Tu es belle. Tu es ma dernière image. Et je n'ai pas à me plaindre. Malheureux celui qui sort du jardin de la vie sans pouvoir emporter la moindre fleur dans le pan de sa robe. J'ai la mienne.
Qu'on enlève le corps de ce pauvre vagabond des mauvais chemins. Il ira dormir auprès de ses compagnons dans le fond du jardin. Et toi, Morgiane, viens m'embrasser. Je t'ai donné la liberté et promis que ma reconnaissance n'en resterait pas là. Le jour est venu de tenir ma promesse. Veux-tu être ma belle-fille?
Oh, Seigneur!
Mamoun, je vous crois assez bon fils pour ne pas contrarier un projet qui me tient au cœur.
Oh, c'était ce rêve dont je n'osais vous parler.
Oh, ben il n'était pas si ridicule. Désormais, mes enfants, n'ayez d'autre souci que de vous rendre heureux. qu'Allah vous comble de toutes sortes de biens et de prospérité. Ayez confiance. Chacun de nous porte à son cou l'oiseau qu'Allah lui a attaché indissolublement.
Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous.
Encore un très bon livre dans la collection Pierre Nord, l'aventure criminelle. Ce livre se nomme « La femme de mon frère » et vient de paraître à la librairie Artem Fayard. Ce roman si intéressant débute cependant d'une manière qui pourrait paraître banale et se développe d'une manière qui pourrait être banale effectivement jusqu'au moment où les faits cessent de cacher la réalité profonde des circonstances et des sentiments. Un jeune homme, Lonnie Chandler, est appelé par son frère Blair Chandler, paralysé à la suite d'un accident de voiture assez mystérieux, et marié avec une très jolie femme, Félice. On a tout de suite l'impression que Félice est une créature frivole, incapable de pitié, et qui saisit toutes les occasions de fuir son mari et l'exploitation agricole qu'il dirigeait pour aller s'amuser, danser et flirter dans la ville voisine. On a l'impression également que son mari souffre cruellement d'une situation que, physiquement, il ne peut plus dominer. Lonnie, pour échapper à cette atmosphère pénible car il chérit son frère, renoue avec une amie d'enfance qu'il a quittée pour rejoindre l'armée. Mais il n'est pas aussi heureux qu'il l'espérait car il s'aperçoit avec épouvante qu'il s'était pris de Félice. Au moment où il envisage le départ comme la seule solution possible, un événement tragique survient. Le malheureux infirme meurt empoisonné. Est-ce un suicide? Est-ce un assassinat? Si c'est un assassinat, une seule personne a pu le commettre et c'est Félice, désireuse, semble-t-il, de refaire sa vie avec un de ses flirts. Mais malgré les apparences, Lonnie se capre devant l'idée que Félice est peut-être une criminelle. On pourrait dire, alors, qu'en plein drame, alors que les projecteurs sont braqués sur les principaux personnages du roman, il se fait un ajustement nouveau des caractères et des perspectives. Lonnie voit brusquement ce que la routine de la vie à la ferme et les souvenirs d'une enfance fraternelle lui avaient caché. Et le roman s'achève par des révélations aussi logiques que dramatiques. Ce retournement de situation absolument inattendu lui confère à la fois son originalité et sa valeur.
Et maintenant, Roger et Jean vous parlent du dernier film qu'il a vu.
N'est pas violent qui veut. Henri Calef, qui a réalisé un film intitulé précisément Les Violents, est un bon metteur en scène, mais sa violence ici est un peu empaillée. On a plutôt l'impression d'une volonté de violence, mais cela manque de spontanéité, de sincérité. Il faut dire que le scénario perpétré par André Legrand et André Haguet manque d'arguments convaincants. On se rappelle le mot de quelqu'un naguère appliqué à un homme politique, c'est un roseau peint en fer. Eh bien, on peut dire que les personnages de ce film répondent parfaitement à cette définition de la force et de la violence. Nous voyons deux hommes, Fernand Ledoux et Jean Brochard, deux excellents comédiens d'ailleurs, terrorisés par le retour d'un certain Edgar, dont le père fut autrefois sacrifié par les deux Lascar, Ledoux et Brochard, qui sont cousins. Celui-ci, peu de temps après, meurt empoisonné au cyanure. L'enquête est dirigée par un inspecteur de police, Paul Meurice, dont la mine est moins que rassurante, et en la personne de qui le personnage, joué par Ledoux, nous dit reconnaître le fameux Edgar, revenu pour venger son père. Je ne vous raconterai pas la suite, car les auteurs ont voulu nous ménager une surprise, mais disons que tout cela est assez confus et nous sommes loin d'avoir le souffle coupé comme on prétendait vouloir le faire. Les interprètes s'efforcent, eux aussi, de prendre un air de circonstance, mais les mines patibulaires de Paul Meurice ne nous effraient guère. Dans un tout autre climat évoluent les personnages de La vérité presque nue, comédie cinématographique anglaise dans le style noblesse oblige ou tueur de dames. Empressons-nous de dire que la réussite n'est pas aussi complète que pour ces deux films, classiques de l'humour noir britannique. Et c'est même le souvenir de ces deux ouvrages qui nous empêche de nous divertir franchement devant cette vérité presque nue, qui mériterait peut-être un meilleur sort si l'on ne faisait justement la comparaison. C'est une histoire de maître chanteur. Un journaliste marron, Michael Dennis, possède des renseignements compromettants sur la vie privée d'un certain nombre de personnalités en vue de Londres, un père du royaume, un célèbre présentateur de spectacles à la télévision, une romancière fameuse, etc., etc. Et, preuves en main, se rend chez les intéressés et propose, contre une forte somme, de leur rendre le dossier. Devant les prétentions exorbitantes du maître chanteur, les victimes constituent une sorte de syndicat pour supprimer Michael, mais comme dans Tueur de dames ou dans Comment tuer un oncle à héritage, toutes les tentatives échouent et ces entreprises punitives sombrent dans la bouffonnerie. C'est en somme le procédé comique inverse de celui de Noblesse oblige, où au contraire, tous les meurtres réussissaient. Le film est assez amusant, un peu longué toutefois, et parfois laborieux, mais la marque de cet humour britannique, d'origine garantie, sauve beaucoup de choses.
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir, d'après les contes des Mille et Une Nuits, Ali Baba ou les 40 voleurs exterminés par une esclave, dans une adaptation radiophonique de Pierre Roland. Avec Nelly Delmas, Bernadette Lange, Pascal Mazzotti, Roger Carrel, Henri Virlogeux, Maurice Clavitte, Pierre Leproux, René Cardona, Henri Janic, Jacques Anquetil, Jacques Deschamps et Roger Coggio. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Jean Delanduc. Bruitage, Gabriel de Rivage. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.